Chapitre 9. Le comte de Trémorel ne supposait pas que le répit demandé par Berthe dût être de longue durée. Depuis une semaine, Sauvresy semblait aller mieux. Il se levait maintenant, il commençait à aller et venir dans la maison, et même, il recevait, sans trop de fatigue, la visite de ses nombreux amis du voisinage. Mais, hélas, le maître du Valfeuilly n'était plus que l'ombre de lui-même. Jamais, à le voir plus blême que la cire, exsangue, chancelant la joue creuse, l'œil brillant d'un feu sombre, on aurait reconnu ce robuste jeune homme aux lèvres rouges, au visage épanoui, qui, le long du restaurant de Sèvres, avait arrêté la main de Trémorel. Il avait tant souffert. 20 fois la maladie avait failli le terrasser, 20 fois l'énergie de son indomptable volonté avait repris le dessus. Il ne voulait pas, non, il ne voulait pas mourir avant de s'être vengé de ces infâmes qui lui avaient pris son bonheur et sa vie. Mais quel châtiment leur infliger ! Il cherchait, et c'était là l'idée fixe qui, brûlant son cerveau, allumait la flamme de son regard. Dans les circonstances ordinaires de la vie, 3 parties se présentent pour servir la colère et la haine du mari trompé. Il a le droit, presque le devoir, de livrer sa femme et son complice aux tribunaux. La loi est pour lui. Il peut épier adroitement les coupables, les surprendre et les tuer. Il y a un article du code qui ne l'absout pas, mais qui l'excuse. Enfin, rien ne l'empêche d'affecter une philosophique indifférence, de rire le premier, le plus haut de son malheur, de chasser purement et simplement sa femme et de la laisser manquer de tout. Mais quelle pauvre, quelle misérable vengeance! Livrer sa femme aux tribunaux, n'est-ce pas de gaieté de cœur, courir au-devant de l'opprobre, offrir son nom, son honneur, sa vie à la risée publique? N'est-ce pas se mettre à la merci d'un avocat qui vous traîne dans la boue? On ne défend pas la femme adultère, on attaque son mari, c'est plus commode. Et quelle satisfaction obtiendrait-il? Berthe et Trémorel seraient condamnés à 1 an de prison, à 18 mois, à 2 ans, au plus. Tuer les coupables lui semblait plus simple, et encore. Il entrerait, déchargerait sur eux un revolver, il n'aurait pas le temps de se reconnaître, leur agonie ne durerait pas 1 minute, et après? Il lui faudrait se constituer prisonnier, subir un jugement, se défendre, invoquer l'indulgence du législateur et risquer une condamnation. Quant à chasser sa femme, c'était la livrer bénévolement à Hector. Il devait supposer qu'ils s'adoraient et il les voyait, quittant le Valfeuillu, la main dans la main, heureux, riant, se moquant de lui, pauvre niais. À cette pensée, il était pris d'accès de rage froide, tant il est vrai que les pointes aiguës de l'amour-propre ajoutent une douleur aux plus douloureuses blessures. Aucune de ces vengeances vulgaires ne pouvait le satisfaire. Il voulait quelque chose d'inouï, de bizarre, d'excessif, comme l'offense, comme ses tortures. Et il se reprenait à songer à toutes les histoires sinistres qu'il avait lues, cherchant un supplice applicable aux circonstances présentes. Il avait le droit d'être difficile, il était déterminé à attendre et d'avance, il avait fait le sacrifice de sa vie. Une seule chose pouvait renverser ses projets, la lettre arrachée à Jenny Fancy. Qu'était-elle devenue? L'avait-il donc perdue dans les bois de Beauprévoir? Il l'avait cherché partout et ne l'avait pas retrouvé. Il s'accoutumait d'ailleurs à feindre, trouvant comme une jouissance cruelle dans la contrainte qu'il s'imposait. Il avait su se composer une contenance qui ne laissait rien deviner des pensées qui le hantaient. C'est sans frissonnements apparents qu'il subissait les flétrissantes caresses de cette femme jadis tant aimée. Jamais il n'avait tendu à son ami Hector une main plus largement ouverte. Le soir, lorsqu'ils se trouvaient tous trois réunis sous la lampe, il prenait sur lui d'être gai. Il bâtissait 1000 rayons de château en Espagne pour plus tard, quand on lui permettrait de sortir, quand il irait tout à fait bien. Le comte de Trémorel se réjouissait. « Voici Clément sur pied pour tout de bon cette fois, » dit-il un soir à Berthe. Elle ne comprenait que trop le sens de cette phrase. « Vous songez donc toujours à Mademoiselle Courtois ?» demanda-t-elle. « Ah, ne m'avez-vous pas permis d'espérer ?»« Je vous ai prié d'attendre, Hector, et vous avez bien fait de ne pas vous hâter. Je sais une femme qui vous apporterait non pas 1 mais 3 millions de dots. » Il fut péniblement surpris. En vérité, il ne songeait qu'à Laurence et voici qu'un nouvel obstacle se dessinait. « Et quelle est cette femme ?» Elle se pencha à son oreille et d'une voix frémissante. « Je suis la seule héritière de Clément, » dit-elle. « Il peut mourir, je puis être veuve demain. » Hector fut comme pétrifié. « Mais, sauvres-y, répondit-il, se porte Dieu merci à merveille. » Berthe fixa sur lui ses grands yeux clairs et avec un calme effrayant dit « Qu'en savez-vous ?» Trémorel ne voulut pas, n'osa pas demander la signification de ces paroles étranges. Il était de ces hommes faibles qui fuient les explications, qui, plutôt que de se mettre en garde lorsqu'il est en temps encore, se laissent nieusement acculer par les circonstances. Être mous et veule qui, avec une lâche préméditation, se bande les yeux pour ne pas voir le danger qui les menace, et qui, à une situation nette et définie qu'ils n'ont pas le courage d'envisager, préfère les langueurs du doute et les transactions de l'incertitude. D'ailleurs, bien que redoutant Berthe et la détestant un peu, il éprouvait à mesure usée s'angoisse une puérile satisfaction. Avoir l'acharnement et la persistance qu'elle déployait pour le défendre, pour le conserver, il concevait de sa valeur et de son mérite une estime plus grande. Pauvre femme, pensait-il, voici que dans sa douleur de me perdre, de me voir à une autre, elle est venue à souhaiter la mort de son mari. Et telle était son absence de sens moral, qui ne comprenait pas tout ce qu'il y avait de vil, de répugnant, d'odieux dans les idées qu'il supposait à Madame Sauvresy et dans ses propres réflexions. Cependant, les alternatives de mieux et de plus mal de Sauvresy donnaient tort à l'assurance du comte de Trémorel. Ce jour-là même, et lorsque l'on croyait bien qu'enfin la convalescence de Sauvresy allait désormais marcher rapidement, il fut obligé de se remettre au lit. Cette rechute se déclara après un verre de quinquina qu'il avait l'habitude, depuis une semaine, de prendre avant son repas du soir. Seulement, cette fois, les symptômes changèrent du tout au tout, comme si à la maladie qui avait failli l'emporter succédait une autre maladie différente. Il se plaignait de picotements à la peau, de vertiges, de commotions convulsives qui contractaient et tordaient tous ses membres, particulièrement ses bras. D'intolérables névralgies faciales lui arrachaient les cris par moments. Un affreux goût de poivre, persistant, tenace, que rien ne pouvait atténuer, lui faisait sans cesse ouvrir et fermer la bouche. Il ressentait une agitation inquiète qui se traduisait par des insomnies dont la morphine à haute dose ne triomphait pas. Enfin, il éprouvait un affaissement mortel et un froid de plus en plus intense, venant non de l'extérieur mais de l'intérieur, comme si la température du corps eût graduellement diminué. Quant au délire, il avait complètement disparu, et le malade conservait la parfaite lucidité de son intelligence. Au milieu de telles épreuves, Sauvresy montrait la plus indomptable vaillance, réagissant tant qu'il pouvait contre la douleur. Jamais il n'avait paru attacher une importance si grande à l'administration de son immense fortune. Perpétuellement, il était en conférence avec des gens d'affaires. Il mandait à tout propos des notaires et des avocats et s'enfermait avec eux des journées entières. Puis, sous prétexte qu'il lui fallait des distractions, il recevait tous les gens d'Orcival qui le venaient voir, et quand par hasard il n'avait pas de visiteurs, vite il envoyait chercher quelqu'un, assurant que seul il ne pouvait s'empêcher de songer à son mal, souffrant par là même bien davantage. De ce qu'il faisait, de ce qu'il tramait, pas un mot. Et Berthe, réduite aux conjectures, était dévorée d'anxiété. Souvent, lorsqu'un homme d'affaires était resté avec son mari plusieurs heures, elle le guettait à sa sortie, et se faisant aussi aimable, aussi séduisante que possible, elle mettait en œuvre toute sa finesse pour obtenir quelques renseignements qui l'éclairât. Mais nul de ceux auxquels elle s'adressait ne pouvait ou ne voulait rassurer sa curiosité. Ils n'avaient tous que des réponses vagues, soit que Sauvresy leur eût recommandé la discrétion, soit qu'ils n'eussent rien à dire. Personne d'ailleurs n'entendit Sauvresy se plaindre. Ses conversations roulaient d'habitude sur Berthe et sur Hector. Ils voulaient que tout le monde sût bien leur dévouement. Il ne les appelait que ses anges gardiens, bénissant le ciel de lui avoir donné une telle femme et un tel ami. Avec tout cela, si grave était son état que l'optimisme de Trémorel commençait à désespérer. Ses alarmes étaient vives. Quelle situation lui ferait la mort probable de son ami? Berthe veuve deviendrait-il implacable? Elle serait libre de tout oser, et que n'oserait-elle pas? Il se promit qu'à la première occasion, il s'efforcerait de démêler les sentiments exacts de Madame Sauvresy. Elle vint d'elle-même au-devant de ses intentions. C'était dans l'après-midi. Le père Plantat était près du malade. Ils avaient la certitude de n'être ni écoutés ni interrompus. « Il me faut un conseil, Hector, commença Berthe, et seul vous pouvez me le donner. Comment savoir si dans ces derniers jours, Clément n'a pas changé ses dispositions à mon égard ?»«
Ses dispositions ?»«
Oui, je vous ai dit que par un testament dont j'ai la copie, Sauvresy me lègue toute sa fortune, mais je tremble qu'il ne l'ait révoquée. »«
Quelle idée !»
« Oh, j'ai des raisons pour craindre. Est-ce que la présence au Falfeuillu de tous ces gens de loi ne trahit pas quelque machination perfide? Savez-vous que d'un trait de plume, cet homme peut me ruiner? Savez-vous qu'il peut m'enlever ses millions et me réduire aux 50 000 francs de ma dot ?»«
Mais il ne le fera pas, » répondit-il, cherchant sottement à la rassurer. « Il vous aime. »«
Qui vous le garantit ?» interrompit-elle brusquement. « Je vous ai annoncé 3 millions. C'est 3 millions qu'il me faut, non pour moi, Hector, mais pour vous. Je les veux, je les aurai. Mais comment savoir? Comment savoir ?»
L'indignation de Trémorel était grande.
Voilà donc où l'avait conduit ses atermoiements, l'étalage de ses convoitises d'argent. Elle se croyait le droit, maintenant, de disposer de lui sans se soucier de sa volonté, l'achetant en quelque sorte. Et ne pouvoir, n'oser rien dire.
« Oh, il faut patienter, conseilla-t-il, attendre, Attendre quoi? Reprit-elle avec violence. Qu'il soit mort? On ne parlait pas ainsi, fit-il. Pourquoi donc? Merde se rapprocha de lui et d'une voix sourde, sifflante. Il n'a plus 8 jours à vivre, dit-elle, et tenez. Elle sortit de sa poche et lui montra un petit flacon de verre bleu bouché à l'émerie. Voici qui m'assure que je ne me trompe pas. Hector devint livide et ne put retenir un cri d'horreur. Il comprenait tout maintenant. Il s'expliquait l'inexplicable facilité de Berthe, son affectation à ne plus parler de Laurence, ses propos bizarres, son assurance. « Du poison ? » balbutiait-il, confondu de tant de perversité. « Du poison ? Oui, du poison. Vous ne vous en êtes pas servi ?» Elle arrêta sur lui son regard insupportable de fixité, ce regard qui brisait sa volonté, sous lequel d'ordinaire il se débattait en vain, et d'une voix calme, appuyant sur chaque mot, elle répondit « Je m'en suis servi. » Certes, le comte de Trémorel était un homme dangereux, sans préjugés, sans scrupules, ne reculant devant tout n'est qu'une infamie quand il s'agissait de l'assouvissement de ses passions et capable de tout. Mais ce crime horrible réveillait en lui tout ce qui lui restait encore d'énergie honnête. « Eh bien, s'écria-t-il révolté, vous ne vous en servirez plus !» Il se dirigeait déjà vers la porte, frémissant et perdu. Elle l'arrêta. « Avant d'agir, fit-elle froidement, réfléchissez. Vous êtes mon amant, j'en fournirai la preuve. » À qui ferez-vous entendre qu'étant mon amant, vous n'êtes pas mon complice? Il sentit toute la portée de cette terrifiante menace dans la bouche de Berthe. Allez, poursuivit-elle d'un ton ironique, parlez, demandez à faire des révélations. Quoi qu'il arrive, dans le bonheur ou dans l'infamie, nous ne serons plus séparés. Nos destinées seront pareilles. Hector s'était laissé tomber pesamment sur un fauteuil, plus assommé que s'il eût reçu un coup de massue. Il prenait entre ses mains crispées son front qui lui semblait près d'éclater. Il se voyait, il se sentait enfermé dans un cercle infernal sans issue. « Mais je suis perdu » balbutia-t-il, sans savoir ce qu'il disait. « Je suis perdu !» Oh, il était à faire pitié. Sa figure était affreusement décomposée. De grosses gouttes de sueur perlaient à la racine de chacun de ses cheveux. Ses yeux avaient l'égarement de la folie. Berthe lui secoua rudement le bras. Sa misérable lâcheté l'indignait. « Vous avez peur !» lui disait-elle, « vous tremblez !» Perdu. Vous ne prononceriez pas ce mot si vous m'aimiez autant que je vous aime. Serez-vous perdu parce que je serai votre femme? Parce qu'enfin nous nous aimerons librement à la face de toute la terre? Perdu. Mais vous n'avez donc pas idée de ce que j'ai enduré? Vous ne savez donc pas que je suis lasse de souffrir, lasse de craindre, lasse de feindre? Un si grand crime! Elle eut un éclat de rire qui le fit frissonner. « Il fallait, reprit-elle avec un regard écrasant de mépris, faire vos réflexions le jour où vous m'avez prise à Sauvresy, le jour où vous avez volé la femme de cet ami qui vous avait sauvé la vie. Pensez-vous que ce crime soit moins grand, moins affreux? Vous saviez, comme moi, tout ce qu'il y avait pour moi d'amour au fond du cœur de mon mari. Vous saviez qu'entre mourir et me perdre de cette façon, s'il lui eût fallu choisir, il n'eût pas hésité. Mais il ne sait rien, balbutia Hector, il ne se doute de rien. Vous vous trompez. Sauvresy, c'est tout. C'est impossible. Tout, vous dis-je. et cela depuis le jour où il est revenu si tard de la chasse. Vous souvient-il, qu'observant son regard, je vous ai dit « Hector, mon mari se doute de quelque chose. Vous avez haussé les épaules. Vous rappelez-vous les pas dans le vestibule, le soir où j'étais allé vous rejoindre dans votre chambre? Il nous avait épiés. Enfin, voulez-vous une preuve plus forte, plus décisive? Examinez cette lettre que j'ai retrouvée froissée, mouillée, dans la poche d'un de ses vêtements. » En parlant ainsi, elle mettait sous ses yeux la lettre arrachée à Miss Jenny Fancy, et il la reconnaissait bien. « Oh, c'est une fatalité !» répétait-il, visiblement accablé et vaincu. « Mais nous pourrons rompre, Berthe, je puis m'éloigner. » « Il est trop tard. Croyez-moi, Hector, c'est notre vie aujourd'hui que nous défendons. Ah, 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 vous ne connaissez pas Clément. Vous ne vous doutez pas de ce que peut être la fureur d'un homme comme lui, lorsqu'il s'aperçoit qu'on s'est odieusement joué de sa confiance, qu'on l'a trahi indignement. S'il ne m'a rien dit, s'il ne nous a rien laissé voir de son implacable ressentiment, c'est qu'il médite quelque affreux projet de vengeance. » Tout ce que disait Berthe n'était que trop probable, et Hector le comprenait bien. « Que faire ? » demanda-t-il sans idée, presque sans voix. « Que faire ? » « Savoir quelle disposition il peut avoir prise. Mais comment ? » Oh, je l'ignore encore. J'étais venu vous demander conseil, mais je vous trouve plus lâche qu'une femme. Laissez-moi donc agir, ne vous occupez plus de rien, puisque je prends tout sur moi. » Il voulut essayer une objection. « Assez, dit-elle. Il ne faut pas qu'il puisse nous ruiner. Je verrai, je réfléchirai. » On l'appelait en bas. Elle descendit, laissant Hector perdu dans ses mortelles angoisses. Le soir, après bien des heures, pendant que Berthe paraissait heureuse et souriante, sa figure à lui portait si bien la trace de ses bouillantes émotions que Sauvresy lui demanda affectueusement s'il ne se trouvait pas indisposé. « Tu t'épuises à me veiller, mon bon Hector, disait-il. Comment reconnaître jamais ton paternel dévouement ?» Trémorel n'avait pas la force de répondre. Et cet homme-là saurait tout, pensait-il. Quelle force, quel courage! Mais quel sort nous réserve-t-il donc? Cependant, le spectacle auquel il assistait lui faisait horreur. Toutes les fois que Berthe donnait à boire à son mari, elle retirait de ses cheveux une grande épingle noire, la plongeait dans la bouteille de verre bleu et en détachait ainsi quelques grains blanchâtres qu'elle faisait dissoudre dans les potions ordonnées par le médecin. On devrait supposer que, dominé par des circonstances atroces, harcelé de terreurs croissantes, le comte de Trémorel avait renoncé complètement à la fille de M. Courtois. On se tromperait. Autant et plus que jamais, il songeait à Laurence. Les menaces de Berthe, les obstacles devenus infranchissables, les angoisses, le crime ne faisaient qu'augmenter les violences, non de son amour, mais de sa passion pour elle, et attiser la flamme de ses convoitises pour sa personne. Une lueur petite, chétive, tremblante, qui éclairait les ténèbres de son désespoir, le consolait, le ranimait, lui rendait le présent plus facile à supporter. Il se disait que Berthe ne pouvait songer à l'épouser au lendemain de la mort de son mari. Des mois se passeraient, une année, et après il serait encore gagné du temps. Enfin, un jour, il signifierait ses volontés. Et qu'aurait-elle à dire? Parlerait-elle du crime? Voudrait-elle le compromettre comme complice? Qui la croirait? Comment arriverait-elle à prouver que lui, aimant et épousant une autre femme, avait intérêt à la mort de Sauvresy? On ne tue pas un homme, son ami, pour son plaisir. Provoquerait-elle une exhumation? Elle se trouvait actuellement, supposait-il, dans une de ces crises qui ne souffrent ni le libre arbitre ni l'exercice de la raison. Plus tard, elle réfléchirait, et alors elle serait arrêtée par la seule probabilité de danger dont la certitude en ce moment ne l'effrayait aucunement. Il ne voulait d'elle pour femme à aucun prix, jamais. Il l'eût détestée riche à millions. Il la haïssait, pauvre ruinée, réduite à ses propres moyens. Et elle pouvait être ruinée, elle devait l'être, si on admettait que Sauvresy fût instruit de tout. Attendre ne l'inquiétait pas. Il se savait assez aimé de Laurence pour être sûr qu'elle l'attendrait 1 an, 3 ans, s'il le fallait. Déjà, il exerçait sur elle un empire d'autant plus absolu qu'elle ne cherchait ni à combattre, ni à repousser cette pensée qu'Hector, qui doucement l'envahissait, pénétrait tout son être, remplissait son cœur et son intelligence. Hector, en y appliquant tout l'effort de sa réflexion, se disait que peut-être, dans l'intérêt de sa passion, autant valait que Berthe agît comme elle le faisait. Il s'efforçait de dompter les révoltes de sa conscience en se prouvant qu'en somme, il n'était pas coupable. De qui venait l'idée? D'elle. Qui l'exécutait? Elle seule. On ne pouvait lui reprocher qu'une complicité morale et involontaire, forcée, imposée, en quelque sorte, par le soin de sa défense légitime. Parfois, pourtant, d'amères répugnances lui montaient à la gorge. Il eut compris un meurtre soudain, violent, rapide. Il se fut expliqué le coup de couteau, le coup de poignard. Mais cette mort lente, versée goutte à goutte, édulcorée de tendresse, voilée sous des baisers, lui paraissait particulièrement hideuse. Il avait peur et horreur de Berthe comme d'un reptile, comme d'un monstre. Si parfois il se trouvait seul et qu'elle l'embrassa, il frissonnait de la tête aux pieds. Elle était si calme, si avenante, si naturelle. Sa voix avait si bien les mêmes inflexions molles et caressantes qu'il n'en revenait pas. C'était sans s'interrompre de causer qu'elle glissait son épingle à cheveux dans le flacon bleu, et il le surprenait en elle, lui qui l'étudiait. Ni un tressaillement, ni un frémissement, ni même un battement de paupières. Il fallait qu'elle fût de bronze. Cependant, il trouvait qu'elle ne prenait pas assez de précautions. Elle pouvait être découverte, surprise. Il lui dit ses frayeurs et combien elle le faisait frémir à tout moment. « Ayez donc confiance en moi, répondit-elle. Je veux réussir. Je suis prudente. » Bon, on peut avoir des soupçons. Qui? Le sais-je, tout le monde, les domestiques, le médecin. Mais il n'y a nul danger, et quand même. On chercherait, Berthe, y songez-vous, on descendrait aux plus minutieuses investigations. Elle eut un sourire où éclatait la plus magnifique certitude. On peut chercher, reprit-elle, examiner, expérimenter, on ne retrouvera rien. Vous imagineriez-vous que j'emploie niaisement l'arsenic? Oh, de grâce, taisez-vous. J'ai su me procurer un de ces poisons inconnus encore qui défient toutes les analyses, un de ces poisons dont bien les médecins à 7 heures, et je parle des vrais, des savants, ne saurait seulement pas dire les symptômes. Mais où avez-vous pris? Il s'arrêta net devant ce mot, poison, Il n'osait le prononcer. « Mais qui vous a donné cela ? » reprit-il. « Bon, que vous importe ? J'ai su prendre de telles précautions que celui qui me l'a donné court les mêmes dangers que moi, et il le sait. Donc, rien à craindre de ce côté. Je l'ai payé assez cher pour qu'il n'ait jamais l'ombre d'un regret. » Une objection abominable lui vint sur les lèvres. Il avait envie de dire « C'est bien lent !» Il n'eut pas ce courage, mais elle lut sa pensée dans ses yeux. « C'est bien lent, parce que cela me convient ainsi, » dit-elle. « Avant tout, il faut que je sache à quoi m'en tenir au sujet du testament, et j'y travaille. » Elle ne s'occupait que de cela, en effet, et pendant les longues heures qu'elle passait près du lit de Sauvresy, peu à peu, avec des nuances insaisissables, à force de délicatesse, avec les plus infinies précautions, elle amenait la pensée défiante du malade à ses dispositions dernières. Si bien que lui-même, il aborda ce sujet d'un si poignant intérêt pour Berthe. Il ne comprenait pas, disait-il, qu'on n'eût pas toujours ses affaires en ordre et ses volontés suprêmes écrites en cas de malheur. Qu'importe qu'on soit bien portant ou malade. Au premier mot, Berthe essaya de l'arrêter. De telles idées lui faisaient, gémissait-elle, trop de peine. Même elle pleurait, des larmes très réelles, qui glissaient, brillantes comme les diamants, le long de ses joues, et la rendait plus belle et plus irrésistible, des larmes vraies qui mouillaient son mouchoir de fine batiste. Folle, lui disait Sauvresy, chère folle, crois-tu donc que cela fait mourir? Non, mais je ne veux pas. Laisse donc, avons-nous été moins heureux, parce que le lendemain de mon mariage, j'ai fait un testament qui te donne toute ma fortune. Eh tiens, tu dois en avoir une copie. Si tu étais complaisante, tu irais me la chercher. » Elle devint toute rouge, puis fort pâle. « Pourquoi demandait-il cette copie? Voulait-il la déchirer ?» Une rapide réflexion la rassura. On ne déchire pas une pièce que d'un mot sur une autre feuille de papier on peut anéantir. Cependant, elle se défendit un peu. « Oh, j'ignore où est cette copie. »« Ah, je le sais, moi, elle est dans le tiroir à gauche de l'armoire à glace. Va, tu me feras bien plaisir. » Et pendant qu'elle était sortie, « Pauvre femme, » dit Sauvresy à Hector, « pauvre Berthe adorée, si je mourais, elle ne me survivrait pas. » Trémorel ne trouvait rien à répondre. Son anxiété était inexprimable et visible. Mais cet homme-là, se douterait-il de quelque chose? Pensait-il non? Oh non, ce n'est pas possible. Berthe rentrait. J'ai trouvé, dit-elle. Donne. Il prit cette copie de son testament et la lutte avec une satisfaction évidente, hochant la tête à certains passages où il rappelait son amour pour sa femme. Quand il eut fini sa lecture, « Maintenant, » demanda-t-il, « donnez-moi une plume avec de l'encre. » Hector et Berthe lui firent remarquer qu'écrire allait le fatiguer, mais il fallut le contenter. Placés au pied du lit, hors de la vue de Sauvresy, les deux coupables échangeaient les regards les plus inquiets. Mais que pouvait-il écrire ainsi? Mais il venait de terminer. « Prends, » dit-il à Trémorel, « lis tout haut ce que je viens d'ajouter. » Hector se rendit au désir de son ami, bien que sentant que l'émotion devait faire chevroter sa voix, et il lut. « Aujourd'hui, » le jour et la date, Saint d'esprit, bien que souffrant, je déclare n'avoir pas une ligne à changer à ce testament. Jamais je n'ai plus aimé ma femme, jamais je n'ai tant désiré la faire héritière, si je viens à mourir avant elle de tout ce que je possède, Clément Sauvresy. Si forte était Berthe, si parfaitement et toujours maîtresse de ses impressions, qu'elle parvint à refouler la satisfaction immense qui l'inondait. Tous ses vœux étaient comblés, et pourtant elle parvint à voiler de tristesse l'éclat de ses beaux yeux. « Oh, quoi bon ? » fit-elle avec un soupir. Elle disait cela, mais une demi-heure plus tard, seule avec Trémorel, elle se livrait à tous les enfantillages de la joie la plus folle. « Plus rien à craindre, disait-elle, plus rien. À nous maintenant, la liberté, la fortune, l'ivresse de notre amour, le plaisir, la vie, toute la vie. 3 millions, Hector, nous avons 3 millions au moins. Je le tiens donc, ce testament. Désormais, il n'entrera plus un homme d'affaires ici. C'est maintenant que je vais me hâter. » Incontestablement, le comte était content de la savoir libre, parce qu'on se défait bien plus facilement d'une veuve millionnaire que d'une pauvre femme sans le sou. L'action de Sauvresy calmait bien des anxiétés aiguës. Cependant, cette expansion de gaieté pareille à un éclat de rire, cette inaltérable sécurité lui semblèrent monstrueuses. Il eût souhaité plus de solennité dans le crime, quelque chose de grave et de recueilli. Il jugea qu'il devait au moins calmer ce délire. « Vous penserez plus d'une fois à Sauvresy, » fit-il d'une voix sombre. Elle fit une roulade, « et vivement répondit, « À lui, quand? Et pourquoi faire? Ah, son souvenir ne sera pas lourd. J'espère bien que nous ne cesserons pas d'habiter la Vallée Feuillue qui me plaît. Seulement nous aurons un hôtel à Paris, le vôtre que nous rachèterons. Quel bonheur, mon Hector, quelle félicité !» La seule perspective de ce bonheur entrevu l'épouvantait au point de lui inspirer un bon mouvement. Il espéra toucher Berthe. « Une dernière fois, je vous en conjure, lui dit-il, renoncez à ce terrible, à ce dangereux projet. Vous voyez bien que vous vous abusiez, que Sauvresy ne se doute de rien, qu'il vous aime toujours. » L'expression de la physionomie de la jeune femme changea brusquement. Elle restait pensive. « Ne parlons plus de cela, dit-elle enfin. Il se peut que je me trompe. Il se peut qu'il n'ait que des doutes. Il se peut que, même ayant découvert quelque chose, il espère me ramener à force de bonté. C'est que, voyez-vous... » Elle se tut. Peut-être ne voulait-elle pas l'effrayer. Il ne l'était déjà que trop. Le lendemain, ne pouvant supporter la vue de cette agonie, craignant sans cesse de se trahir, il partit pour Melun sans rien dire. Mais il avait laissé son adresse et, sur un mot d'elle, lâchement, il revint. Sauvresy le redemandait à grands cris. Elle lui avait écrit une lettre d'une inconcevable imprudence qui lui fit dresser les cheveux sur la tête. Il comptait à son retour lui adresser des reproches, mais c'est elle qui lui en adressa. « Pourquoi cette fuite ? Oh, je ne saurais rester ici, je souffre, je tremble, je meurs. Oh, quel âge vous faites ? » dit-elle. Il voulait répliquer, mais elle mit un doigt sur sa bouche, en montrant de l'autre main la porte de la pièce voisine. « Chut ! Il y a là 3 médecins en consultation depuis 1 heure, et je n'ai pu réussir à surprendre une seule de leurs paroles. Qui sait ce qu'ils disent ? Je ne serai tranquille qu'après leur départ. » Les transes de Berthe n'étaient pas sans quelque fondement. Lors de la dernière rechute de Sauvresy, quand il s'était plaint de névralgie très douloureuse à la face et d'un odieux goût de poivre, le docteur R. avait laissé échapper un singulier mouvement de lèvres. Ce n'était rien, ce mouvement, mais Berthe l'avait surpris. Elle avait cru y deviner l'involontaire traduction d'un soupçon rapide, et il était resté présent à son esprit comme un avertissement et une menace. Le soupçon, cependant, s'il y en eut jamais un, dut s'évanouir bien vite. 12 heures plus tard, les phénomènes avaient complètement changé, et le lendemain, le malade éprouvait tout autre chose. Même cette variété d'indices, cette inconsistance des symptômes, n'avait pas dû peu contribuer à égarer les conjectures des médecins. Depuis ces derniers jours, Sauvresy ne souffrait presque plus, affirmait-il, et reposait assez bien la nuit. Mais il l'accusait des accidents bizarres, déconcertants et parfois excessifs. Évidemment, il allait s'affaiblissant d'heure en heure, il s'éteignait et tout le monde s'en apercevait. C'est en cet état de choses que le docteur R. avait demandé une consultation et lorsque Trémorel reparut, Berthe, le cœur serré, en attendait les résultats. Enfin, la porte du petit salon s'ouvrit et la placide figure des hommes de l'art dut rassurer l'empoisonneuse. Désolantes étaient les conclusions de cette consultation. Tout avait été tenté, épuisé, et on n'avait négligé aucune des ressources humaines. On ne pouvait plus rien attendre que de l'énergique constitution du malade. Plus froide que le marbre, immobile, les yeux pleins de larmes, Berthe, en écoutant cet arrêt cruel, offrait si bien l'image parfaite de la douleur ici-bas que tous ces vieux médecins en furent remués. « N'y a-t-il donc plus d'espoir? Oh mon Dieu !» s'écria-t-elle d'une voix déchirante. C'est à peine si le docteur R. osa essayer de la rassurer un peu. Il lui répondit vaguement quelques-unes de ces phrases banales qui signifient tout et ne veulent rien dire et qui sont comme le lieu commun des consolations qu'on sait inutiles. « Oh, il ne faut jamais désespérer, disait-il, chez des malades de l'âge de Sauvresy. La nature, lorsqu'on s'y attend le moins, fait souvent des miracles. » Mais, ayant pris Hector à part, le docteur l'engagea à préparer au coup terrible cette malheureuse jeune femme, si dévouée et si intéressante, et qui aimait tant son mari. « Car, voyez-vous, ajouta-t-il, je ne crois pas que M. Sauvresy puisse vivre plus de 2 jours. » L'oreille au guet, Berthe avait surpris le fatal ultimatum de la faculté, et Trémorel, en revenant de conduire les médecins consultants, la trouva rayonnante. Elle lui sauta au cou. « C'est maintenant, disait-elle, que l'avenir vraiment nous appartient. » Un seul point noir, imperceptible, obscurcissait notre horizon et il s'est dissipé. À moi de réaliser la prédiction du docteur R. Ils dînèrent tous deux comme d'ordinaire dans la salle à manger, pendant qu'une des femmes de chambre restait près du malade. Berthe était d'une gaieté expansive qu'elle avait peine à dissimuler. La certitude du succès et de l'impunité, l'assurance de toucher au but la faisait se départir de sa dissimulation si habile. Malgré la présence des domestiques, elle parlait vivement, à mots couverts, de sa délivrance prochaine. Ce mot « délivrance » fut prononcé. Elle fut ce soir-là l'imprudence même. Un doute chez un seul des domestiques, moins que cela une mauvaise disposition, et elle pouvait être compromise, perdue. À tout moment, Hector, qui sentait ses cheveux se dresser sur sa tête, lui donnait des coups de pied sous la table, en roulant de gros yeux pour la faire taire. En vain. C'est qu'il y a de ces heures où l'armure de l'hypocrisie devient si lourde à porter qu'on est forcé coûte que coûte de la déposer, ne fût-ce qu'un instant, pour se délasser, pour se détirer. Heureusement, on apporta le café et les gens se retirèrent. Pendant qu'Hector fumait son cigare, Berthe, plus librement, poursuivait son rêve. Elle comptait passer au Valfeuillu tout le temps de son deuil, et Hector, pour garder les apparences, louerait dans les environs quelques jolies petites maisons où elle irait le surprendre le matin. L'ennui, c'est qu'il lui faudrait faire semblant de pleurer Sauvresy mort, comme elle avait fait semblant de l'aimer vivant. Elle n'en aurait donc jamais fini avec cet homme. Enfin, un jour viendrait où, sans scandaliser les imbéciles, elle pourrait quitter les vêtements noirs. Quelle fête! Puis il se marierait. Où? À Paris ou à Orcival. Puis elle s'inquiétait du délai après lequel une veuve a le droit de choisir un nouveau mari, car il y a une loi à ce sujet. Et elle disait qu'elle avait envie d'en finir le soir même, que ce serait un jour de gagner. Hector dut lui prouver longuement qu'attendre était indispensable. On courait à brusquer des dangers réels. Lui aussi, cependant, il eût voulu voir son ami sous la terre, pour en finir avec cette erreur, pour secouer l'obsession épouvantable de Berthe. L'heure s'avançait. Hector et Berthe durent passer dans la chambre de Sauvresy. Ils dormaient. Ils s'installèrent sans bruit, chacun d'un côté du feu, comme tous les soirs. La femme de chambre se retira. Afin que la lumière de la lampe ne gênât pas le malade, on avait disposé les rideaux de la tête du lit de telle façon que, couché, il ne pouvait voir la cheminée. Pour l'apercevoir, il lui fallait se hausser sur ses oreillers et se pencher en s'appuyant sur le bras droit. Mais il dormait d'un sommeil pénible, fiévreux, agité de frissons convulsifs. Sa respiration pressée et sifflante soulevait la couverture à intervalles égaux. Berthe et Trémorel n'échangeaient plus une parole. Le silence morne, sinistre, n'était troublé que par le tic-tac de la pendule ou par le froissement des feuillets du livre que lisait Hector. 10 heures sonnèrent. Peu après, Sauvresy fit un mouvement. Il se retournait. Il s'éveillait. Légère et attentive comme une épouse dévouée, d'un saut, Berthe fut près du lit. Son mari avait les yeux ouverts. « Te sens-tu un peu mieux, mon bon Clément ?» demanda-t-elle. « Bon, ni mieux, ni plus mal. Souhaites-tu quelque chose ?» J'ai soif. Hector, qui avait levé les yeux aux premières paroles de son ami, se replongea dans sa lecture. Debout, devant la cheminée, Berthe préparait avec des soins minutieux la dernière potion prescrite par le docteur R et qui nécessitait certaines précautions. La potion prête, elle sortit de sa poche la fiole de cristal bleu et y trempa, comme tous les soirs, une de ses épingles à cheveux. Elle n'eut pas le temps de la retirer, on la touchait légèrement à l'épaule. Un frisson la secoua jusqu'au talon, brusquement elle se retourna et poussa un cri terrible, un cri d'épouvante et d'horreur. « Oh !» Cette main qu'il avait touchée, c'était celle de son mari. Oui, pendant qu'elle était devant la cheminée, dosant le poison, Sauvresy bien doucement s'était soulevé, puis doucement il avait écarté le rideau, et c'était son bras décharné qui s'allongeait vers elle, c'était ses yeux effrayants de haine et de colère qui flamboyaient devant les siens. Au cri de Berthe, un autre cri sourd, un râle plutôt, avait répondu. Trémorel avait tout vu, tout compris. Il était anéanti. Tout est découvert. Ces trois mots éclataient dans leur intelligence comme des obus. Partout autour d'eux, ils éblouissaient, écrits en lettres de feu. Il y eut un moment d'indicible stupeur, une minute de silence si profond qu'on entendit battre les tempes d'Hector. Sauvresy était rentré sous ses couvertures. Il riait d'un rire éclatant et lugubre, comme le serait le ricanement d'un squelette dont les mâchoires et les dents s'entrechoqueraient. Mais Berthe n'était pas de ces créatures qu'un seul coup, si terrible qu'il soit, peut abattre. Elle tremblait plus que la feuille, ses jambes fléchissaient, mais déjà sa pensée s'égarait en subterfuge possible. Qu'avait vu Sauvresy? Avait-il même vu quelque chose? Que savait-il? Et quand il aurait vu le flacon de verre bleu, ces choses-là s'expliquent. Ce pouvait être, ce devait être, par un simple effet du hasard, que son mari l'avait touché à l'épaule, juste au moment du crime. Toutes ces pensées ensemble traversèrent son esprit en une seconde, rapide comme l'éclair, rayant les ténèbres. Et alors elle osa, elle eut la force d'oser, s'approcher du lit et de dire avec un sourire affreusement contraint, mais enfin avec un sourire, « Oh, quelle peur tu viens de me faire !» Il la regarda pendant une seconde qui lui parut durer un siècle, et ce plombant répondit « Oh, je le comprends !» Plus d'incertitude possible. Aux yeux de son mari, Berthe ne vit que trop clairement qu'il savait. Mais quoi? Mais jusqu'où? Elle parvint à prendre sur elle de continuer. « Souffrirais-tu davantage ?»« Non. »« Alors pourquoi t'es-tu levée ?» Pourquoi? Il réussit à se hausser sur ses oreillers et avec une force dont on ne l'eût pas cru, sans capable une minute auparavant, il poursuivit. « Je me suis levé pour vous dire que c'est assez de torture comme cela, que j'en suis arrivé aux limites de l'énergie humaine, que je ne saurais endurer un jour de plus ce supplice inouï. » De me voir, de me sentir mesurer la mort lentement, goutte à goutte, par les mains de ma femme et de mon meilleur ami. Il s'arrêta. Hector et Berthe étaient foudroyés. Je voulais vous dire encore assez de ménagement cruel, assez de raffinement, je souffre. Oh, ne voyez-vous pas que je souffre horriblement? Hâtez-vous, allez abréger mon agonie. Tuez-moi, mais tuez-moi d'un coup, empoisonneur! Sur ce dernier mot, empoisonneur, le comte de Trémorel se dressa comme s'il eût été mu par un ressort, tout d'une pièce, les yeux hagards, les bras étendus en avant. Sauvresy, lui, à ce moment, glissa rapidement sa main sous les oreillers, et retira un revolver dont il dirigea le canon vers Hector en criant « N'approche pas !» Il avait cru que Trémorel allait se précipiter sur lui, et puisque le poison était découvert, l'étrangler, l'étouffer. Il se trompait. Hector se sentait devenir fou. Il retomba comme une masse. Berthe, plus forte, essayait de se débattre, s'efforçant de secouer les torpeurs de l'épouvante qui l'envahissait. « Oh, tu es plus mal, mon Clément, disait-elle. C'est encore cette affreuse fièvre qui me fait tant de peur qui te reprend. Le délire. »« Ai-je vraiment le délire ? » interrompit-il d'un air surpris. « Hélas, oui, mon bien-aimé, c'est lui qui te hante, qui peuple d'horribles visions ta pauvre tête malade. » Il la regarda curieusement. Réellement, il était stupéfait de cette audace qui croissait avec les circonstances. « Quoi? Ce serait nous qui te sommes si chers, tes amis, moi ta... » L'implacable regard de son mari la força, oui, la força, de s'arrêter, et les paroles expirèrent sur ses lèvres. Assez de mensonges, va, Berthe, reprit Sauvresy, ils sont inutiles. Non, je n'ai pas rêvé. Non, je n'ai pas eu le délire. Le poison n'est que trop réel et je pourrais te le nommer sans le retirer de ta poche. Elle recula épouvantée, comme si elle eût vu la main de son mari étendue pour lui arracher le flacon de cristal. Je l'ai deviné et reconnu dès le premier moment, car vous avez choisi un de ces poisons qui ne laissent guère de traces, il est vrai, mais dont les indices ne trompent pas. Vous souvient-il du jour où je me suis plaint d'une saveur poivrée? Le lendemain, j'étais fixé et j'ai failli ne pas l'être seul. Le docteur R. a eu un doute. Berthe voulut balbutier quelques mots. Sauvresy l'interrompit. Oh, on s'exerce au poison, poursuivait-il d'un ton d'effrayante ironie, avant de s'en servir. Vous connaissez donc pas le vôtre, vous ne savez donc rien de ses effets. Maladroit. Comment? Votre poison donne d'intolérables névralgies, des insomnies d'Oriel Triomphe, et vous me regardez sottement, sans surprise, dormir des nuits entières. Comment? Je me plains d'un feu intérieur dévorant, pendant que votre poison charrie les glaces dans les veines et dans les entrailles, et vous ne vous en étonnez pas. Vous voyez disparaître et changer tous les symptômes, et vous n'êtes pas éclairé. Mais vous êtes donc fou. Savez-vous ce qu'il m'a fallu faire pour écarter les soupçons du docteur R? J'ai dû taire les souffrances réelles de votre poison et me plaindre de mots imaginaires, ridicules, absurdes. J'accusais précisément le contraire de ce que j'éprouvais. Vous étiez perdu? Je vous ai sauvé. Sous tant de coups redoublés, la criminelle énergie de Berthe chancelait. Elle se demandait si elle ne devenait pas folle. Entendait-elle bien? Était-ce bien vrai que son mari s'était aperçu qu'on l'empoisonnait et qu'il n'avait rien dit, qu'il avait même trompé et dérouté le médecin? Mais pourquoi? Dans quel but? Sauvresy avait fait une pause de quelques minutes, et bientôt il reprit. Si je me suis tué, si je vous ai sauvé, c'est que le sacrifice de ma vie était fait. Oui, j'ai été frappé au cœur pour ne plus me relever le jour où j'ai appris qu'abusant de ma confiance, vous me trompiez. C'est sans émotion apparente qu'il parlait de sa mort, du poison qu'on lui versait. Mais sur ces mots, vous me trompiez, sa voix s'altéra et trembla. Vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas le croire d'abord. Je doutais du témoignage de mes sens plutôt que de vous. Il a bien fallu me rendre à l'évidence. Je n'étais plus dans ma maison qu'un de ces tyrans grotesques qu'on berne et qu'on bafoue. Cependant, je vous gênais encore. Il fallait à vos amours plus d'espace et de liberté. Vous étiez las de contraintes, excédé de feintes. Et c'est alors que, songeant que ma mort vous faisait libres et riches, vous avez chargé le poison de vous débarrasser de moi. Berthe avait du moins l'héroïsme du crime. Tout était découvert, elle jetait le masque. Elle essaya de défendre son complice, qui restait anéanti dans un fauteuil. « C'est moi qui ai tout fait !» s'écria-t-elle. « Il est innocent !» Un mouvement de rage empourpra le visage pâle de Sauvresy. « Ah, vraiment !» reprit-il. « Mon ami Hector est innocent !» Ce n'est donc pas lui qui, pour me payer, non la vie, il était trop lâche pour se tuer, mais l'honneur qu'il me doit, m'a pris ma femme? Misérable! Je lui tends la main quand il se noie, je l'accueille comme un frère aimé, et pour prix de mes services, il installe l'adultère à mon foyer. Non, cet adultère brillant qui a l'excuse de la passion et la poésie du péril bravé, mais l'adultère bourgeois, bas, ignoble de la vie commune. Et tu savais ce que tu faisais, mon ami Hector. Tu savais, je te l'avais dit 100 fois, que ma femme était tout pour moi, ici-bas, le présent et l'avenir, la réalité, le rêve, le bonheur, l'espérance, la vie, enfin. Tu savais que pour moi, la perdre, c'était mourir. Mais si encore tu l'avais aimée, mais non, c'est pas elle que tu aimais, c'est moi que tu haïssais. L'envie te dévorait, et vraiment tu ne pouvais pas me dire en face « Tu es trop heureux, rends-moi raison. » Alors, lâchement dans l'ombre, tu m'as déshonoré. Berthe n'était que l'instrument de tes rancunes, et aujourd'hui, elle te pèse. Tu la méprises et tu la crains. Mon ami Hector, tu as été chez moi le vil laquais qui pense venger sa bassesse en souillant de sa salive les mets qu'il porte à la table du maître. Le comte de Trémorel ne répondit que par un gémissement. Les paroles terribles de cet homme mourant tombaient sur sa conscience plus cruelles que des soufflets sur sa joue. « Voilà, Berthe, continuait Sauvresy, voilà l'homme que tu m'as préféré, pour lequel tu m'as trahi. Tu ne m'as jamais aimé, moi je le reconnais maintenant. Jamais ton cœur ne m'a appartenu. Et moi, je t'aimais tant. Du jour où je t'ai vu, tu es devenu mon unique pensée, ou plutôt ma pensée même, comme si ton cœur à toi eût battu à la place du mien. En toi, tout m'était cher et précieux. J'adorais tes caprices, tes fantaisies. J'adorais jusqu'à tes défauts. Il n'est rien que je n'eusse entrepris pour un de tes sourires, pour me faire dire merci entre deux baisers. Tu ne sais donc pas que, bien des années après notre mariage, ce m'était encore un bonheur, une fête, de m'éveiller le premier pour te regarder dormir d'un sommeil d'enfant, pour admirer, pour toucher tes beaux cheveux blonds épandus sur la batiste des oreillers. Oh, Berthe !» Il s'attendrissait au souvenir de ses félicités passées, de ses jouissances immatérielles à force d'être profondes, et qui ne reviendraient plus. Il oubliait leur présence, la trahison infâme, le poison. Il oubliait qu'il allait mourir assassiné par cette femme tant aimée, et ses yeux s'emplissaient de larmes, sa voix s'étouffait dans sa gorge. Il s'arrêta. Plus immobile et plus blanche que le marbre, Berthe écoutait, essayant de pénétrer le sens de cette scène. « Il est donc vrai, reprit le malade, que ces beaux yeux limpides éclairent une âme debout. Ah, qui n'eût été trompé comme moi? Berthe, à quoi rêvais-tu? Lorsque tu t'endormais bercé entre mes bras, quelle chimère caressait ta folie! Le Trémorel est arrivé. Tu as cru voir en lui l'idéal de tes songes. Tu admirais les rites précoces du viveur comme le sceau fatal qui marque le front de l'archange déchu. Tu as pris pour des lambeaux de pourpre les guenilles pailletées de son passé qu'il secouait sous tes yeux. Ton amour, sans souci du mien, s'est élancé au-devant de lui qu'il ne songeait même pas à toi. Tu allais au mal comme à ton essence même. Et moi, qui croyais ta pensée plus immaculée que la neige des Alpes? En toi, il n'y a même pas eu de lutte. Tu ne t'es pas abandonnée, tu t'es offerte. Nul trouble ne m'a révélé ta première faute. Tu m'as porté sans rougir ton front mal essuyé des baisers de ton amant. La lassitude domptait son énergie. Sa voix peu à peu se voilait et devenait plus faible. « Tu as eu ton bonheur entre les mains, Berthe, et tu l'as brisé insoucieusement, comme l'enfant brise le jouet dont il ignore la valeur. Qu'attendais-tu de ce misérable pour lequel tu as eu l'affreux courage de me tuer, le baiser aux lèvres, doucement, lentement, heure par heure? Tu as cru l'aimer, mais le dégoût à la longue doit être venu. Regarde-le et juge-nous. Vois, quel est l'homme de moi étendu sur ce lit où je vais rendre le dernier soupir dans quelques heures, et de lui qui agonise de peur dans son coin. Du crime, tu as l'énergie, et il en a que la bassesse. Ah, si je m'appelais Hector de Trémorel et qu'un homme eût osé parler comme je viens de le faire, cet homme n'existerait plus, est-il, pour se défendre 10 revolvers comme celui que je tiens. Ainsi remué du pied dans la boue, Hector essaya de se lever, de répondre. Ses jambes ne le portaient plus, sa gorge ne rendait que des sons rauques et inarticulés. Et Berthe, en effet, examinant ces deux hommes, reconnaissait avec rage son erreur. Son mari, en ce moment, lui apparaissait sublime. Ses yeux avaient des profondeurs inouïes, son front rayonnait, tandis que l'autre, considérée seulement, elle se sentait prise de nausée. Ainsi, toutes ces chimères décevantes après lesquelles elle avait couru, amour, passion, poésie, elle les avait eues entre les mains, elle les avait tenues, et elle n'avait pas su s'en apercevoir. Mais où en voulait venir ce Rosie? Quelle idée poursuivait-il? Il continuait péniblement. Ainsi donc, voici notre situation. Vous m'avez tué, vous allez être libre, mais vous vous haïssez, vous vous méprisez. Il dut s'interrompre, il étouffait. Il essaya de se hausser sur ses oreillers, de s'asseoir sur son lit. Il était trop faible. Alors il s'adressa à sa femme. « Berthe, dit-il, aide-moi à me soulever. » Elle se pencha sur le lit, s'appuyant au dossier, et prenant son mari sous les bras, elle parvint à le placer comme il le désirait. Dans cette nouvelle position, il parut plus à l'aise, et à 2 ou 3 reprises, il respira longuement. « Maintenant, fit-il, je voudrais boire. Le médecin m'a permis un peu de vin vieux, si fantaisie m'en prenait. Donne-moi 3 doigts de vin vieux. » Elle se hâta de lui en apporter un verre, il le vida et le lui rendit. « Il n'y avait pas de poison dedans ? » demanda-t-il. Cette question effrayante, le sourire qui l'accompagnait, brisèrent l'endurcissement de Berthe. Depuis un moment, avec son dégoût pour Trémorel, les remords en elle s'étaient éveillés et déjà elle se faisait horreur. « Du poison ? » répondit-elle avec violence. « À jamais ! » « Oh, il va pourtant falloir m'en donner tout à l'heure, pour m'aider à mourir. »« Toi, mourir, Clément, non. Je veux que tu vives, pour que je puisse racheter le passé. Oui, je suis une infâme. J'ai commis un crime abominable. Mais tu es bon. Tu vivras. Je ne te demande pas d'être ta femme, mais ta servante. Je t'aimerai, je m'humilierai, je te servirai à genoux, je servirai tes maîtresses si tu en as, et je ferai tant qu'un jour, après 10 ans, après 20 ans d'expiation, tu me pardonneras. » C'est à peine si, dans son trouble mortel, Hector avait pu suivre cette scène. Mais au geste de Berthe, à son accent, à ses dernières paroles surtout, il eut comme une lueur d'espoir, il crut que peut-être tout allait être fini, oublié, que Sauvresie allait pardonner. Se soulevant à demi, il balbutia « Oui, grâce, grâce !» Les yeux de Sauvresy lançaient les éclairs. La colère donnait à sa voix des vibrations puissantes. « Ah ! S'écria-t-il, pardon ? Avez-vous eu pitié de moi pendant une année que vous vous êtes joué de mon bonheur ? Depuis 15 jours que vous mêlez du poison à toutes mes tisanes ? Grâce, mais vous êtes fou ! Pourquoi donc pensez-vous que je me suis tue en découvrant votre infamie, que je me suis laissé tranquillement empoisonner, que j'ai pris soin de dérouter les médecins ? Espérez-vous que j'ai agi ainsi uniquement pour préparer une scène d'adieu déchirant et vous donner à la fin ma bénédiction? Connaissez-moi mieux!
Berthe sanglotait. Elle essaya de prendre la main de son mari. Il la repoussa durement.
Assez de mensonges, dit-il, assez de perfidie. Je vous hais. Vous ne sentez donc pas qu'il n'y a plus que la haine vivante en moi?
L'expression de Sauvresy était atroce en ce moment.
Voici bientôt 2 mois, reprit-il, que je sais la vérité. Tout se brisa en moi, l'âme et le corps. Ah, il m'en a coûté de me taire. J'ai failli en mourir. Mais une pensée me soutenait. Je voulais me venger. Aux heures de répit, je ne songeais qu'à cela. Je cherchais un châtiment proportionné à l'offense. Je n'en trouvais pas, non, je pouvais en trouver. Lorsque vous avez pris le parti de m'empoisonner, le jour où j'ai deviné le poison, j'ai eu un tressaillement de joie. Je tenais ma vengeance.
Une terreur toujours croissante envahissait Berthe et la stupéfiait autant que Trémorel.
Pourquoi voulez-vous donc ma mort? Continuait Sauvresy. Pour être libre. Pour vous marier, eh bien, c'est là ce que je veux aussi. Le comte de Trémorel sera le second mari de madame veuve Sauvresy.
Oh, jamais, s'écria Berthe, non, jamais.
Jamais, répéta Hector comme un écho. Cela sera pourtant puisque moi je le veux. Oh, mes précautions sont bien prises, allez. Et vous ne sauriez m'échapper. Écoutez-moi donc, dès que j'ai été certain du poison, j'ai commencé par écrire notre histoire très détaillée à tous les trois, et j'ai le plus tenu jour par jour, heure par heure, pour ainsi dire, un journal fort exact de mon empoisonnement. Enfin, j'ai recueilli du poison que vous me donniez.
Berthe eut un geste que Sauvresy prit pour une dénégation, car il insista. «
Certainement, j'en ai recueilli et j'ai pu même vous dire comment. » Toutes les fois que Berthe me donnait une potion suspecte, j'en gardais une gorgée dans ma bouche et, fort soigneusement, je crachais cette gorgée dans une bouteille cachée sous mon traversin. Ha ha! Vous vous demandez comment j'ai pu faire toutes ces choses sans que vous vous en soyez douté, sans qu'aucun domestique s'en soit aperçu. Sachez donc que la haine est plus forte encore que l'amour et que jamais l'adultère n'aura les perfidies de la vengeance. Soyez sûr que je n'ai rien laissé au hasard, rien oublié.
Hector et Berthe regardaient Sauvresy avec cette attention fixe, voisine de l'hébétement. Ils s'efforçaient de comprendre, ils ne comprenaient pas encore.
Finissons-en, reprit le mourant, mes forces s'épuisent. Donc, ce matin même, cette bouteille contenant 1 litre environ de potion. Notre biographie et la relation de mon empoisonnement ont été remises aux mains d'un homme sûr et dévoué que vous n'arriveriez pas à convaincre, ni à corrompre si vous le connaissiez. Rassurez-vous, il ignore la nature du dépôt. Le jour où vous vous marierez, cet ami vous rendra le tout. Si au contraire, d'aujourd'hui en 1 an, vous n'êtes pas marié,
Il a ordre de remettre le dépôt confié à son honneur entre les mains du procureur impérial. » Un double cri d'horreur et d'angoisse apprit à Sauvresy qu'il avait bien choisi sa vengeance. « Et songez-y bien, » ajouta-t-il. « Le paquet remis à la justice, c'est le bagne, pour vous, sinon l'échafaud. » Sauvresy avait abusé de ses forces. Il retomba sur son lit, haletant, la bouche entrouverte, les yeux éteints, les traits si décomposés qu'on eût pu croire qu'il allait expirer. Mais ni Berthe ni Trémorel ne songeaient à le secourir. Ils restaient là, en face l'un de l'autre, la pupille dilatée, hébétée, comme si leurs pensées se fussent rencontrées dans les tourments de cet avenir que leur imposait l'implacable ressentiment de l'homme qu'ils avaient outragé. Ils étaient maintenant indissolublement unis, confondus dans une destinée pareille, sans que rien pût les séparer que la mort. Une chaîne les liait plus étroite et plus dure que celle des forçats, chaîne d'infamie et de crime dont le premier anneau était un baiser et le dernier un empoisonnement. Désormais, Sauvresy pouvait mourir, sa vengeance planait sur leur tête, faisant ombre à leur soleil. Libres en apparence, ils iraient dans la vie, écrasés par le fardeau du passé, plus esclaves que les noirs des marais empestés de l'Amérique du Sud. Séparés par la haine et le mépris, ils se voyaient rivés par la terreur commune du châtiment, condamnés à un embrassement éternel. Mais ce serait méconnaître Berthe que de croire qu'elle en voulait à son mari. C'est en ce moment qu'il l'écrasait du talent qu'elle l'admirait. Agonisant, si faible qu'un enfant eût eu raison aisément de son dernier souffle, il prenait pour elle des proportions suprahumaines. Elle n'avait idée ni de tant de constance ni de tant de courage s'alliant à tant de dissimulation et de génie. Comme il les avait devinés, comme il avait su se jouer d'eux. Pour être le plus fort, le maître, il n'avait eu qu'à vouloir. Jusqu'à un certain point, elle jouissait de l'étrange atrocité de cette scène trop excessive pour être de celle qui entre dans les prévisions humaines. Elle ressentait quelque chose comme un âpre orgueil à s'y trouver mêlé, à y jouer un rôle. En même temps, elle était transportée de rage et de regret en songeant que cet homme, elle l'avait eu à elle, en son pouvoir, qu'il avait été à ses genoux. Elle était bien près de l'aimer. Entre tous les hommes, maîtresse de ses destinées, c'est lui qu'elle eût choisi. Et il allait lui échapper. Cependant, il faut bien le dire, le caractère de Berthe n'est pas une exception. On rencontre assez souvent des caractères pareils, seulement le sien fut poussé à l'extrême. L'imagination est, selon les circonstances, le foyer qui vivifie la maison ou l'incendie qui la dévore. L'imagination de Berthe, faute d'aliment pour sa flamme, mit le feu à tous ses mauvais instincts. Les femmes douées de cette effroyable énergie ne sont médiocres ni pour le crime ni pour la vertu, ce sont des héroïnes sublimes ou des monstres. Elles peuvent être des anges de dévouement, des Sophie Glaire, des Jane Lomont, alors elles partagent le martyr de quelque obscur inventeur ou donnent leur vie pour une idée. D'autres fois, elles épouvantent la société par leur cynisme, elles empoisonnent leur mari en écrivant des lettres en beau style et finissent dans les maisons centrales. Et, à tout prendre, mieux vaut une nature passionnée comme celle de Berthe qu'un tempérament flasque et mou comme celui de Trémorel. La passion, au moins, va de son mouvement propre, terrible, comme celui du boulet, mais de son mouvement. La faiblesse est comme une masse de plomb suspendue au bout d'une corde et qui va heurtant et blessant de droite et de gauche selon la direction que lui imprime le premier devenu. Très Morel, pendant que les sentiments les plus violents bouillonnaient dans l'âme de Berthe, très Morel commençait à revenir à lui. Comme toujours, la crise passée, il se relevait, pareil à ces roseaux que le vent couche dans la vase et qui se redressent plus boueux après chaque bourrasque. La certitude que Laurence, désormais, était perdue pour lui commençait à entrer dans son entendement et son désespoir était sans bornes. Le silence dura ainsi un bon quart d'heure au moins. Enfin, Sauvresy triompha du spasme qu'il avait abattu. Il respirait, il parlait. « Je n'ai pas tout dit encore, » commença-t-il. Sa voix était faible comme un murmure, et cependant elle retentit comme un mugissement formidable aux oreilles des empoisonneurs. « Vous allez voir si j'ai tout calculé, tout prévu. Moi, mort, l'idée vous viendrait peut-être de fuir, de passer à l'étranger. C'est ce que je ne permettrai pas. Vous devez rester à Orcival, au Val-Feuillu. Un ami, non celui qui a reçu le dépôt, un autre, est chargé, sans en savoir les raisons, de vous surveiller. Si l'un de vous, retenez bien mes paroles, disparaît ces 8 jours, le 9e, l'homme du dépôt recevrait une lettre qui le déterminerait à aller prévenir immédiatement le procureur impérial. Oui, il avait tout prévu. Et Trémorel, à qui cette idée de fuite était venue déjà, fut accablé. Oh, je me suis arrangé, d'ailleurs, continuait Sauvresy, pour que cette tentation de fuite ne vous soit pas trop forte. Je laisse, il est vrai, toute ma fortune à Berthe, mais je la lui laisse en usufruit seulement. La nue propriété ne lui appartiendra que le lendemain de votre mariage. Berthe eut un geste de répugnance que son mari interpréta mal. Il crut qu'elle pensait à cette copie à laquelle il avait ajouté quelques lignes. « Oh, tu songes à la copie du testament que tu as entre les mains, lui dit-il. C'est une copie inutile. Et si j'y ai ajouté quelques mots sans valeur, c'est que je redoutais vos convoitises et qu'il fallait endormir vos défiances. Mon testament le vrai, et il insista sur ce mot « vrai », celui qui est déposé chez le notaire d'Orcival et qui vous sera communiqué porte une date postérieure de 2 jours. Oh, je puis vous donner lecture du brouillon. Il tira d'un portefeuille et caché comme le revolver sous son chevet une feuille de papier et lut. Atteint d'une maladie qui ne pardonne pas, et que je sais être incurable, j'exprime ici, librement et dans la plénitude de mes facultés, mes volontés dernières. Mon vœu le plus cher est que ma bien-aimée veuve, Berthe, épouse aussitôt que les délais légaux seront expirés, mon cher ami le comte Hector de Trémorel. Ayant été à même d'apprécier la grandeur d'âme et la noblesse de sentiment de ma femme et de mon ami, je sais qu'ils sont dignes l'un de l'autre, et que l'un par l'autre ils seront heureux. Je meurs plus tranquille, sachant que je laisse à ma Berthe un protecteur dont j'ai éprouvé. Il fut impossible à Berthe d'en entendre davantage. « Grâce ! » s'écria-t-elle, « assez !»« Assez, soit, » répondit Sauvresy. Je vous ai lu ce brouillon pour vous montrer que, si d'un côté j'avais tout disposé pour assurer l'exécution de mes volontés, de l'autre j'ai tout fait pour vous conserver la considération du monde. Oui, je veux que vous soyez estimés et honorés. C'est sur vous seul que je compte pour ma vengeance. J'ai noué autour de vous un réseau que vous ne sauriez briser. Vous triomphez. La pierre de ma tombe sera bientôt, comme vous l'espériez, l'autel de vos fiançailles. Sinon, le bagne. Sous tant d'humiliation, sous tant de coups de fouet, le cinglant en plein visage, la fierté de Trémorel se révolta à la fin. « Tu n'as oublié qu'une chose, ami Sauvresy, s'écria-t-il, on peut mourir. »« Pardon, reprit froidement le malade, j'ai prévu le cas et j'allais vous en avertir. Si l'un de vous mourait brusquement avant le mariage, le procureur impérial serait prévenu. » Non, non, tu te méprends. Je voulais dire, on peut se tuer. Sauvresy toisa Hector d'un regard outrageant. Toi, te tuer, fit-il, allons donc. Jenny Fancy, qui te méprise presque autant que moi, m'a éclairé sur la portée de tes menaces de suicide. Te tuer. Tiens, voici mon revolver, brûle-toi la cervelle, et je pardonne à ma femme. Hector eut un geste de rage, mais il ne prit pas l'arme que lui tendait son ami. « Tu vois bien ?» insista Sauvresy. « Je le savais bien, tu as peur. » Et s'adressant à Berthe, « Voilà ton amant, » disait-il. Les situations excessives ont ceci de bizarre que les acteurs y restent naturels dans l'exception. Ainsi, Berthe, Hector et Sauvresy acceptaient, sans s'en rendre compte, les conditions anormales dans lesquelles ils se trouvaient placés, et ils parlaient presque simplement, comme s'il se fût agi de choses de la vie ordinaire et non de faits monstrueux. Mais les heures volaient et Sauvresy sentait la vie se retirer de lui. « Il ne reste qu'un acte à jouer, » fit-il. « Hector, va appeler les domestiques. Qu'on fasse lever ceux qui y sont couchés, je veux les voir avant de mourir. » Trémorel hésitait. « Va donc. Veux-tu que je sonne? Veux-tu que je tire un coup de pistolet pour attirer ici toute la maison ?» Hector sortit. Berthe était seule avec son mari, seule. Elle eut l'espoir que peut-être elle parviendrait à le faire revenir sur ses résolutions, qu'elle obtiendrait son pardon. Elle se rappelait le temps où elle était toute puissante, le temps où son regard fondait les résolutions de cet homme qu'il adorait. Elle s'agenouilla devant le lit. Jamais elle n'avait été si belle, si séduisante, si irrésistible. Les poignantes émotions de la soirée avaient fait monter toute son âme à son front. Ses beaux yeux, noyés de larmes, suppliaient, sa gorge haletait, sa bouche s'entr'ouvrait comme pour des baisers, cette passion pour Sauvresy née dans la fièvre éclatait en délire. « Clément, » balbutiait-elle d'une voix pleine de caresses, énervante, lascive. « Mon mari, Clément !» Il abaissa sur elle un regard de haine. « Que veux-tu ?» Elle ne savait comment commencer. Elle hésitait, elle tremblait, elle se troublait. Elle aimait. « Hector ne saurait pas mourir, fit-elle, mais moi. »« Quoi ? Que veux-tu dire ? Parle !» « Mais c'est moi, misérable, qui te tue. Je ne te survivrai pas. » Une inexplicable angoisse contracta les traits de Sauvresy. Elle se tuait. Mais alors c'en était fait de sa vengeance. Sa mort à lui ne serait plus qu'un suicide absurde, ridicule, grotesque. Et il savait que le courage ne manquerait pas à Berthe au dernier moment. Elle attendait, il réfléchissait. « Tu es libre, » répondit-il enfin. « Ce sera un dernier sacrifice à ton amant. Toi, morte, Trémor, elle épousera Laurence Courtois, et dans un an, il aura oublié jusqu'au souvenir de notre nom. » D'un bond, Berthe fut debout, terrible. Elle voyait Trémorel marié, heureux. Un sourire de triomphe, pareil à un rayon de soleil, éclaira le pâle visage de Sauvresy. Il avait touché juste. Il pouvait s'endormir en paix dans sa vengeance. Berthe vivrait. Il savait quels ennemis il laissait en présence. Mais déjà les domestiques arrivaient un à un. Presque tous étaient au service de Sauvresy depuis de longues années déjà, et il l'aimait, c'était un bon maître. En le voyant sur son lit, hâve, défait, portant déjà sur sa figure l'empreinte de la mort, ils étaient émus, ils pleuraient. Alors Sauvresy, dont les forces étaient vraiment à bout, se mit à leur parler d'une voix à peine distincte, et entrecoupé de hoquets sinistres. Il avait tenu, disait-il, à les remercier de leur attachement à sa personne et à leur apprendre que par ses dernières dispositions, il leur laissait à chacun une petite fortune. Puis arrivant à Berthe et à Hector, il poursuivait « Vous avez été témoins, mes amis, des soins dont j'ai été l'objet de la part de cet ami incomparable » et de ma Berthe adorée. Vous avez vu leur dévouement. Hélas, je sais quels seront leurs regrets. Mais s'ils veulent adoucir mes derniers instants et me faire une mort heureuse, ils se rendront à la prière que je leur cesse de leur adresser. Ils me jureront de s'épouser après ma mort. Oh, mes amis bien-aimés, cela vous semble cruel en ce moment, mais... ne savez-vous pas que toute douleur humaine s'émousse? Vous êtes jeune, la vie a encore bien des félicités pour vous. Je vous en conjure, rendez-vous au vœu d'un mourant. » Il fallait se rendre. Ils s'approchèrent du lit et Sauvresy mit la main de Berthe dans celle d'Hector. « Vous jurez de m'obéir ? » demanda-t-il. Il frissonnait à se tenir ainsi. Il semblait près de s'évanouir. Cependant, ils répondirent, et on put les entendre. « Nous le jurons. » Les domestiques s'étaient retirés, navrés de cette scène déchirante, et Berthe murmurait. « Oh, mais c'est infâme! Mais c'est horrible !» « Infâme, oui, » murmura Sauvresy, « mais non plus infâme que tes caresses, Berthe, que tes poignées de main, Hector. Non, pas plus horrible que vos projets, que vos convoitises, que vos espérances. » Sa voix s'éteignait dans un râle. Bientôt, son agonie commença. D'horribles convulsions tordaient ses membres comme des sarments dans son lit. Deux ou trois fois, il cria « Oh, j'ai froid! Oh, j'ai froid !» Son corps, en effet, était glacé et rien ne pouvait le réchauffer. Le désespoir était dans la maison et on ne croyait pas une fin si prompte. Les domestiques allaient et venaient effarés. Ils se disaient « Il va passer, ce pauvre monsieur, pauvre madame. » Mais bientôt les convulsions cessèrent. Il restait étendu sur le dos, respirant si faiblement que par deux fois on crut que tout était fini. Enfin, un peu avant 2 heures, ses joues tout à coup se colorèrent, un frisson le secoua. Il se dressa sur son séant, et l'œil dilaté, le bras roidi dans la direction de la fenêtre, il s'écria « Là, derrière le rideau, je les vois !» Une dernière convulsion le rejeta sur son oreiller. Clément Sauvresy était mort.